Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Alexandra Candy Longuet. À la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième jour de procès pour le capitalisme qui aujourd'hui encore se retrouve sur le banc des accusés. La parole a été donnée à la défense qui a rappelé l'enrichissement global permis par le système capitaliste depuis deux siècles. Aux yeux de l'accusation, le creusement des inégalités et le dérèglement climatique suffisent à remettre en cause ce modèle. Aujourd'hui, ce sont les chefs d'entreprise que nous appelons à la barre. Comment les représentations du capitaliste ont-elles évolué depuis le 19e siècle ? Comment définir le patron, cette figure largement fantasmée ? Et quels sont les liens qui unissent les chefs d'entreprise et le pouvoir politique? Autant de questions qui vont nous occuper en ce début d'après-midi. Vous écoutez France Culture Radio en chef. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous glisser dans la peau des patrons en compagnie de Michel Auferlet, sociologue, professeur à l'École normale supérieure et directeur de cet ouvrage « Patrons en France » paru à la Découverte en 2017, en compagnie également de Valérie Boussard, professeure de sociologie à l'Université Paris-Nanterre et autrice de « Sociologie de la gestion » paru chez Belin. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra en studio pour nous donner des nouvelles de l'écho.
J'aime beaucoup le terme patron, et pour la raison suivante, c'est que c'est le terme le plus simple, c'est le terme le plus banal, c'est le terme le plus humble. Jamais vous verrez quelqu'un dans une entreprise autour d'une machine qui vous dira « oui, chef d'entreprise ». Ça n'existe pas, ça ne passe à tout, ça passera jamais.
Merci patron,
c'est une image tout à fait ridicule. Et le mot patron en France a un inconvénient, c'est qu'il est chargé de tout un arrière-plan d'affectivité qui a été appris aux gens, justement. Enfin, très fréquemment, aux États-Unis et dans tas d'autres pays, on voit des gens qui disent « Oui, boss !»
Oui, boss, le chef d'entreprise Michel Barba dans le documentaire La Voix de son Maître de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, documentaire sorti en 1978. Bonjour Michel Auferlet, Valérie Boussard.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce qu'il faut commencer peut-être par dire, Michel Auferlet, c'est que le patron, c'est un acteur économique bien sûr, mais c'est aussi un acteur social et politique.
Oui, alors ça le devient, pourrait-on dire, dans les travaux, parce que jusqu'à présent, justement, on ne s'intéressait pas tellement aux patrons et aux patronats. Les historiens, certes, oui, les historiens de l'économie, je pense notamment au dictionnaire historique des patrons français sous la direction de Jean-Claude Domas, par exemple. Les sociologues, ça a été plus tardif, pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourra éventuellement en revenir. Il n'y avait pas une appétence véritable, réciproque, ni d'un côté ni de l'autre, à accepter des entretiens. Et donc, lorsqu'on parlait de patrons, c'était plutôt à partir donc de données statistiques, mais pas tellement à partir de travaux de terrain, comme on a pu emmener Valérie et moi, par exemple.
Vous diriez aussi, Valérie Boussard, qu'on a longtemps réduit cette figure du patron à son rôle économique ?
Oui, en tout cas, ce qu'on était capable de saisir, c'était des données statistiques et donc des caractéristiques sociales de ces personnes en position d'avoir un rôle économique. Mmh. Effectivement, pour revenir sur ce que vient de dire Michel Auferlet.
Quelles sont les raisons, Michel Auferlet, de ce relatif désintérêt des sociologues vis-à-vis des patrons ?
Alors c'est vrai, peut-être du côté des politistes, où il y avait effectivement donc une idée sur les liaisons entre pouvoir patronal et pouvoir politique. Du côté de la sociologie du travail, Valérie pourrait éventuellement me contredire, j'ai l'impression qu'on ne considérait pas le travail patronal comme un véritable travail. Non. Et donc c'est seulement récemment qu'on s'est intéressé à ce que font concrètement les patrons. Le patron était, pour les sociologues, qui étaient en majorité, disons, plutôt du côté dont vous avez parlé tout à l'heure, en faisant le procès du capitalisme, les patrons étaient plutôt des agents économiques exploiteurs, et sur lesquels il n'y avait pas finalement tellement de choses à dire. Et travailler sur les patrons amène encore certains ricanements parmi certains de nos collègues sociologues.
Alors que ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, il y a une diversité des patrons, qu'on peut évidemment pas réduire tous les patrons à ce terme générique de patronat, Valérie Boussard.
Oui, c'est vrai. Alors ce que vient de dire Michel Auferlet est particulièrement juste. Les sociologues ne s'intéressaient pas à ce qui fait le travail à la fois des patrons, Si on reprend le terme de patron, qui est celui de chef d'entreprise, comme on l'a vu dans votre extrait, ou au travail des dirigeants, ou même des cadres supérieurs. Ça, c'était quelque chose de tout à fait opaque. Et quand on a commencé à s'intéresser à ce rôle et à ouvrir cette boîte noire, on a pu effectivement découvrir à la fois une grande diversité des profils, des rôles, de l'activité, de l'influence, à travers cette fois-ci non plus les caractéristiques sociales, mais à travers l'activité elle-même.
Et alors, comme on l'entendait dans l'extrait qu'on a entendu à l'instant, il va falloir voir si on parlera de patron, de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Peut-être que l'on peut d'abord commencer par un petit travail de définition, Michel Auferlet, autour de ce mot patron, d'où est-ce qu'il vient ?
Alors, on va revenir rapidement au 19e, parce que ça mettrait beaucoup de temps à expliciter. Bon, patron, ça vient de pater, ça vient de, donc également de patronage. C'est quelqu'un qui s'occupe des autres d'une certaine manière, le saint patron. Le terme d'ailleurs appliqué donc à l'économie est relativement tardif. Hein. La première fois que l'on voit cela dans le terme de patron justement opposé à celui d'employé ou de salarié, c'est sur la loi de 1848 sur les conseils de prud'homme. Et quand lorsqu'on regarde par exemple le Grand Larousse de la fin du 19e, début du 20e, le terme de patron n'est pas encore tellement spécifié tel qu'il le sera justement à l'heure actuelle. Bon. Alors, patron, il y a d'abord une catégorie statistique, c'est la catégorie 2 de l'INSEE, qui regroupe les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ce sont ceux qui ont plus de 10 salariés. Bon. Ce qui veut dire qu'un patron, au sens statistique du terme, c'est quelqu'un qui a entre 0 et 200 000, 500 000 salariés, si vous voulez. Donc, il y a absolument toutes les catégories qui peuvent éventuellement donc être prises en compte, avec, bien entendu, des hiérarchies internes sur lesquelles on pourra revenir, à savoir, il y a des patrons plus patrons que d'autres. Et également, certains se dénient, en quelque sorte, à eux-mêmes, la qualité de patron. Et les patrons plus importants disent, ça c'est des travailleurs indépendants, pour être patron, il faut au moins avoir créé un emploi de plus que le sien.
Arrêtons-nous un peu, si vous le voulez bien, sur le 19e siècle tout de même, Michel Auferlet. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'un entretien de l'industriel Henri Schneider avec le journaliste Jules Huret. C'était en 1892 et l'extrait de l'interview publié dans le Figaro est lu ici par Romain de Becdelièvre.
Le capital. Mais il existe depuis que le premier homme des vieilles civilisations a construit sa première maison. Il lui a fallu pour cela des économies, c'est-à-dire un capital, car pendant qu'il mettait les pierres les unes sur les autres, il n'allait pas à la chasse. Et pourtant, il lui fallait vivre. Il avait donc des provisions de côté. C'est cela, le capital. Comment peut-on empêcher la formation du capital privé ? Ou plutôt, que veut dire cette différence entre capital privé et capital social ? Est-ce que le capital n'est pas déjà social ? Est-ce que tout l'argent qui circule ne retourne pas aux ouvriers ? Tenez, j'ai 1 million en louis d'or dans le tiroir que voici, en belle pile. Bon, je veux faire bâtir une usine, n'est-ce pas ? J'appelle 1 millier d'ouvriers, des ingénieurs, et au bout d'1 an, mon usine est bâtie. Mais où est mon million de beaux louis ? Tous les jours, j'ai payé les journées de tout ce monde, et mon capital privé, comme vous l'appelez, est devenu capital social.
Michel Auferlet, que vous inspirent ces mots d'Henri Schneider, qui est donc le fils d'Eugène Schneider, fondateur de l'entreprise du Creusot en Saône-et-Loire?
En effet, bon, vous prenez un exemple qui pourrait-on dire un exemple extrême, puisque Schneider, c'est l'une des plus grandes entreprises françaises de la fin du 19e, enfin de tout le 19e jusqu'au milieu du 20e, et c'est l'une des premières entreprises mondiales, si vous voulez. Ouais, effectivement, on est dans un type donc de rapport patron-salarié qui est tout à fait spécifique. Bon. Schneider est un patron paternaliste au sens très très classique du terme, avec une ville usine qui s'appelle donc le Creusot, et dans lesquelles donc il y a une surveillance méthodique qui est organisée, et également en contrepartie, pour être honnête, de cette surveillance, il y a également donc une mise en place d'un certain nombre de services sociaux, que ce soit des hôpitaux, des écoles, des centres d'apprentissage, avec une discipline qui est maintenue de manière extrêmement féroce dans cette ville, puisque ceux qui contesteraient une fois, ne serait-ce qu'une fois, sont mis à la porte. Il y a des grandes grèves qui amènent plusieurs milliers de licenciements. Et la mairie et la députation vont être pendant de nombreuses décennies tenues justement par la famille Schneider ou éventuellement certains de ses cadres supérieurs. J'ai moi-même travaillé justement sur les archives. Les archives de la municipalité et les archives donc de l'entreprise sont assez mélangées, ce qui est assez intéressant justement du point de vue archivistique.
Et alors, est-ce qu'on estime que c'est un modèle de paternalisme spécifique par rapport au modèle qu'on peut voir dans la petite et moyenne entreprise familiale, qui, il faut tout de même le rappeler, est beaucoup plus répandu en France que dans les autres pays qui s'industrialisent à ce moment-là, tout au long du 19e siècle.
Alors effectivement, les formes donc que prennent justement le paternalisme donc chez Schneider ou chez d'autres grands industriels sont assez spécifiques, dans la mesure où même c'est plus possible pour Schneider d'avoir un rapport de face à face, et donc il n'est plus d'ailleurs intéressé par ce rapport de face à face. Le rapport de face à face qui existe dans les petites et moyennes entreprises, c'est soit un rapport de servitude, hein, où les employés sont ce sont dans quelque sorte des serviteurs, ou éventuellement donc un rapport donc infantilisant, à savoir donc c'est notre père et j'ai en quelque sorte un certain nombre de devoirs envers mes salariés. Bon, voilà. Bon. Et donc, le paternalisme, comme l'ont montré un certain nombre d'historiens, le patronage se transforme en paternalisme avec un durcissement, justement, des conditions, notamment après les grandes grèves. Donc, en 1900, Schneider doit supporter des grandes grèves au Creusot et il va avoir une espèce de bouderie. Il ne veut plus se représenter comme député parce que justement, ses ouvriers l'ont lâché.
Et alors, est-ce que c'est dans ce contexte, Michel Auferlet, qu'apparaissent les confédérations patronales, la volonté des patrons de se réunir, et peut-être que c'est en réponse avant tout à l'organisation des salariés qui a lieu à ce moment-là?
Alors oui et non, si vous voulez. Donc là aussi, il y a des travaux historiques. En règle générale, si vous voulez, on avait toujours dit que les confédérations patronales étaient beaucoup plus tardives que les confédérations donc de salariés, parce que, justement, elles étaient essentiellement réactives et que les patrons s'organisaient lorsque il s'agissait de s'opposer à l'État ou lorsque ils agissaient donc de s'opposer aux ouvriers. Bon, alors c'est plus compliqué que cela parce que vous avez donc des chambres syndicales patronales qui se forment dès la loi de 1884 sur le syndicalisme, qui vaut aussi pour les chefs d'entreprise. Et puis vous avez toute une série d'autres raisons, si vous voulez, qui poussent les patrons à s'organiser, notamment du point de vue de l'organisation des normes, hein, bon, et également de la concurrence entre eux, de la régulation de la concurrence, voire de la cartalisation. Donc, en tout état de cause, il y a bien une corrélation entre les grèves ouvrières et la formation donc d'organisations patronales beaucoup plus structurées, mais les confédérations viennent beaucoup plus tard, hein, c'est 1919, et il faut que l'État, en quelque sorte, demande aux chefs d'entreprise de s'organiser, de regrouper leur fédération pour faire une confédération, pour avoir un interlocuteur patronal, notamment après donc les premières négociations qui ont lieu tripartite après la guerre de 1918.
Et alors, les conquêtes sociales de juin 1936 ont peut-être constitué un tournant pour le patronat. Il y a une volonté d'unité plus importante encore qui émerge à ce moment-là.
Oui, il y a une refonte. D'ailleurs, on change le sigle du CP, de la CPGF, qui ne s'appelle plus justement Confédération Générale de la Production Française, mais Confédération Générale du Patronat Français. Et son dirigeant, Gignoux, va publier justement un livre qui s'appelle « Patron, soyez des patrons », justement. À savoir, justement, le terme de patron dont on a parlé tout à l'heure va être un terme qui va être revendiqué après les grèves de 36. C'est la position du chef. Alors qu'au contraire, contrairement à ce que disait justement votre interlocuteur de tout à l'heure, pour toute une série de gens, le terme de patron, après 1968, apparaît comme un terme justement un peu répulsif.
Mais c'est intéressant parce que si on regarde aujourd'hui la vision qu'on a peut-être du patronat, on pense rapidement au MEDEF et à son ancêtre, le CNPF, le Conseil National du Patronat Français. Et ces grandes confédérations, Michel Auferlet, masquent peut-être la pluralité justement qui existe au sein du patronat.
Alors, l'un des débats au sein des historiens et des sociologues, c'est la question de l'unité ou de la diversité du patronat. Je crois que on peut pas conclure à l'un ou à l'autre, si vous voulez, hein. À savoir qu'il y a à la fois des intérêts communs. Bon, sur un certain nombre de points sur lesquels les chefs d'entreprise peuvent faire justement donc union, que ce soit le rôle de l'État, que ce soit éventuellement donc la place des salariés, que ce soit sur la fiscalité. Par contre, il y a des intérêts et des haines, même éventuellement, extrêmement fortes, qui font que ce qu'on appelle donc le CNPF ou le MEDEF, et que où en quelque sorte on espèce les manifestants disent le pouvoir est là, et le pouvoir du MEDEF, c'est le pouvoir qui a accaparé le pouvoir politique. C'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que justement les grandes entreprises et les fédérations des grandes entreprises, eh bien, délèguent à ces organisations patronales finalement ce qu'elles veulent bien déléguer, et que essentiellement c'est un paratonnerre, une espèce d'incarnation et un paratonnerre, et le patron des patrons, c'est une formule journalistique mais qui ne veut pas dire grand chose sociologiquement.
Sur cette question des conflits, des possibles divisions au sein du patronat, je voudrais vous faire entendre Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz, qui a été le président du Conseil national du patronat français, le CNPF, de 80 à 86. On l'écoute.
C'était une surprise pour un chef d'entreprise. Je suis entré dans un milieu que je ne connaissais pas, un milieu qui a l'air très mystérieux vu de l'extérieur, qu'il est moins quand on est à l'intérieur, mais qui effectivement a ses traditions, ses règles, car finalement, voilà un organe, un organisme qui gère des intérêts contradictoires. Vous avez des présidents de fédération, vous avez les transporteurs et les transportés, les assureurs et les assurés. C'est donc très difficile. Donc le consensus est difficile dans ce milieu qui représente à la fois des fédérations et des unions patronales interprofessionnelles. C'est vrai qu'il y avait peu de vrais patrons, et en tout cas très peu de patrons créateurs comme moi. Mais j'ai été reçu quand même de façon très courtoise, très très courtoise, peut-être avec un peu de méfiance. Et il est certain que personne ne pensait, moi le premier d'ailleurs, que je pourrais un jour devenir président.
Yvon Gattaz, interviewé par Philippe Simoneau sur France Culture, c'était le 20 janvier 1998. Un entretien qui par ailleurs peut être réécouté dans son intégralité sur la page de l'émission À Voix Nue. Sur cette question, Michel Auferlet, des conflits entre confédérations patronales ou au sein de ces confédérations, quels exemples historiques dispose-t-on ?
Il suffit de prendre un peu l'actualité, si vous voulez. Vous avez toute une série donc de problèmes, par exemple, à l'heure actuelle, entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Vous avez des problèmes très fins entre la banque et l'assurance. Vous avez des problèmes entre la grande distribution et l'agroalimentaire. Bon, il y a un certain nombre de dossiers où on s'aperçoit que, selon la décision qui est prise donc au niveau donc sommital, au niveau fêtier, il faut arriver à un consensus. Parce que dans cette confédération, on ne vote pas. Au conseil exécutif, on ne vote pas. Il faut que se dégage un consensus. Donc, d'une certaine manière, il y a toute une série de dossiers qui sont retirés de l'ordre du jour pour éviter justement qu'il y ait trop de débats. Et l'un des débats sur lesquels j'avais travaillé pour mon précédent livre, les patrons des patrons, c'était le débat sur la taxe professionnelle, où là, il y avait effectivement donc des perdants et des gagnants. Et donc, ça a mis 2 ans avant qu'on arrive en quelque sorte donc à un accord commun, comme auparavant donc au 19e siècle il y avait un désaccord formel entre les protectionnistes et les libre-échangistes.
Et il y a un conflit sur lequel on peut s'arrêter un instant, c'est celui qui a suivi la loi sur les 35 heures, qui a débouché sur la transformation justement du CNPF en MEDEF. Est-ce que c'est à ce moment-là, Michel Auferlet, que l'on se dit que le terme de patron a trop mauvaise presse, alors il vaut mieux rebaptiser le Conseil national du patronat français en mouvement des entreprises de France? On est en 1998.
Alors, il est question d'ailleurs, à l'heure actuelle, peut-être en 2019 ou en 2020, de le rebaptiser de nouveau, et donc de ne plus dire MEDEF, mais de dire autre chose, peut-être en introduisant peut-être le terme d'entrepreneur. Mais à cette époque-là, en 98 justement, c'est en quelque sorte l'aboutissement donc de 30 ans de bataille au sein du patronat. D'abord, les premiers à se débarrasser du terme de patron, ça a été les jeunes patrons, qui sont devenus en 68 des jeunes dirigeants. Gattaz, qu'on a entendu tout à l'heure, le père Yvon, donc avait voulu en quelque sorte donc supprimer la référence au patronat. Donc dès les années 80, il avait été battu, et c'est donc la possibilité qui est donnée donc à Sellière et à la nouvelle équipe de faire un peu table rase, mais pas tout à fait, en tous les cas, qui permettent en quelque sorte d'arrimer donc la défense patronale à la cause plus générale et plus neutralisée des entreprises.
Valérie Boussard, qu'est-ce que ça nous dit, ça, ce passage du terme patron à celui d'entreprise et peut-être plus tard entrepreneur ?
Non, ce que ça m'inspire surtout, c'est ces discussions autour du terme de patron et du glissement vers le terme de dirigeant. C'est que ce qu'on a vu historiquement, c'est que les patrons étaient initialement les propriétaires du capital. Donc, ils étaient chefs d'entreprise au sens où ils possédaient l'entreprise. Et progressivement, les patrons sont devenus des dirigeants salariés, c'est-à-dire des personnes qui ont été salariées par les propriétaires pour exercer leur travail et donc représenter les entreprises, non plus en tant que patron propriétaire, mais en tant que patron salarié. Et c'est certainement une des raisons qui explique aussi ce glissement vers le terme de dirigeant qui représenterait l'entreprise dans sa forme générale, plus que l'intérêt du propriétaire qui, lui, s'est dissolu, enfin qu'on n'arrive plus à retrouver.
Vous êtes d'accord avec cela, Michel Auferlet, le terme de patron n'est plus tellement adapté à la figure moderne du manager. Est-ce qu'il vaut mieux parler de dirigeant aussi pour vous ?
C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, bon, mais le terme de patron est resté justement donc une réalité sociale intraduisible d'ailleurs dans aucune langue au monde. Hein, quand on dit patron justement avec des interlocuteurs britanniques ou états-uniens, bon, il faut expliquer culturellement ce que ça signifie, à quoi ça renvoie. Ça renvoie à patronat et ça renvoie, pourrait-on dire là aussi, à la charte d'Amiens de 1906 où les syndicats voulaient la suppression du salariat et du patronat. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est véritablement enquisté dans une histoire sociale extrêmement importante. Donc, alors, le terme de patron est toujours valorisé par des petits chefs d'entreprise. J'ai interviewé des grands, des petits, des moyens, et certains revendiquent bon, c'est moi le patron. Mmh. Et le terme de patron, donc là aussi, avec cette idée, par le patron en médecine, etc., etc., c'est le chef, c'est celui vis-à-vis duquel on a beaucoup de respect, qui a fait quelque chose. Bon, finalement, est un terme qui est extrêmement ambivalent dans la langue française.
Et vous disiez qu'on pourrait parler peut-être, que le MEDEF pourrait prendre le terme d'entrepreneur pour se qualifier justement. Quelle est la différence entre le patron et l'entrepreneur ? On sait que quelqu'un comme Joseph Schumpeter a beaucoup défini ce qu'était l'entrepreneur, Valérie Boussard.
Oui, l'entrepreneur, c'est celui qui va... Prendre un risque, justement, en investissant du capital. C'est ce qu'on entendait dans l'extrait tout à l'heure de Schneider. Et qui va investir ce capital et ensuite, par une série d'innovations, arriver à transformer son marché. Mais on voit bien que cet entrepreneur, c'est bien celui qui possède le capital. L'entrepreneur, c'est celui qui investit, c'est celui qui prend le risque. Dans la figure de l'entreprise contemporaine, sont à la tête de l'entreprise des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs, dans ce sens schumpeterien du terme.
Michel Auferlet, sur cette définition de l'entrepreneur chez Schumpeter, qui est vraiment ce créatif anticonformiste qui va devoir aller convaincre les banques de financer son projet.
La référence schumpeterienne est effectivement vient assez souvent lorsque des patrons veulent faire des citations de sociologie ou d'économie. On revient à Schumpeter avec cette mise à l'écart d'un certain nombre donc de nos interlocuteurs, à savoir que celui-là n'est pas un vrai entrepreneur, c'est-à-dire le vrai entrepreneur. C'est ce que disait tout à l'heure Gattaz. Hein. Il disait, c'est celui qui a créé son entreprise. Et là, au CNPF, je me suis retrouvé en face de moi avec non seulement des apparatchiks, à savoir des permanents syndicaux, mais également des gens qui n'avaient pas véritablement créé leur entreprise. Donc il y a une espèce de fierté là aussi, et avec quelques figures, justement, la figure de Pierre Bellon, donc le fondateur de la Sodexo, cette entreprise donc de distribution donc de repas dans les armées ou dans les hôpitaux ou dans les écoles, eh bien, c'était une espèce de figure, si vous voulez. Donc, à lui, ça, c'est un vrai patron.
Et alors, justement, la différence est dans la prise de risque entre le vrai et le faux patron.
Oui, enfin, je veux dire, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les patrons, si vous voulez, c'est aussi ce que disent les petites et moyennes entreprises. Celui-là ne risque rien. Au contraire, il va partir avec un parachute doré. Donc, là aussi, il y a véritablement également donc une lutte, même si elle n'est pas, pourrait-on dire, beaucoup plus médiatisé que cela. En tout cas, là, il y a une lutte entre le haut et du bas du patronat, à savoir, bon, on parle toujours du haut, on parle pas des soutiens, en quelque sorte, donc, de l'entreprise, mais nous avons justement un rôle extrêmement important à jouer.
Valérie Boussard, à quel moment remonte vraiment cette dissociation dont on parle entre le capital d'un côté, incarné par les actionnaires, et le manager, le dirigeant d'entreprise?
Disons que ça se fait progressivement dans la première moitié du 20e siècle. Ça commence à être attesté dans les années 30 par les observateurs. Donc ce passage de la figure comme j'ai dit tout à l'heure, du patron propriétaire au patron qui est le salarié d'un propriétaire, d'un investisseur ou d'un actionnaire.
Mais c'est un phénomène qui s'est accéléré peut-être avec la financiarisation de l'économie dans les années 70.
Alors, ça s'est certainement accéléré. En tout cas, ça s'est encore plus brouillé. Disons que les statuts de dirigeants, hein, si je dois reprendre ce terme, sont encore plus brouillés avec la financiarisation, parce qu'on a l'arrivée d'une série d'opérateurs qui sont les fonds d'investissement, qui vont investir dans des entreprises, rentrer dans leur capital, et dans ces fonds d'investissement, donc qui vont avoir une action vraiment de direction des entreprises, hein, parce qu'elles possèdent le capital. En même temps, ces fonds d'investissement sont représentés par ce qu'on appelle des gérants, donc des personnes qui gèrent cet argent investi, mais qui n'en sont pas les propriétaires. Donc, vous voyez, on a une nouvelle figure. De quelqu'un qui dirige par l'intermédiaire du capital, mais parce qu'il l'a placé, mais en même temps, il n'est pas lui-même celui qui possède ce capital.
Cette transformation a contribué à changer les représentations de cette figure du patron, Michel Auferlet ?
Oui et non. C'est-à-dire oui et non, parce que lorsqu'on regarde les caricatures, finalement, on est toujours avec la même caricature, à savoir le chapeau haut de forme et le cigare à la bouche. Avec la féminisation, donc, il va falloir trouver, il y a un dessin de Plantu, justement, il se demande comment je vais faire, hein, pour représenter une femme des chefs d'entreprise, pour pas lui mettre un chapeau et un cigare dans la bouche. Et, mais bon, donc, il y a toujours cette représentation qui est, en quelque sorte, française, bon, mais qu'on trouve des variations à l'étranger. Donc, à savoir, donc, le patron comme gros gras, pourrait-on dire, et puis, dans une attitude, donc, d'hyper-consommation. Bon. Malgré tout, si vous voulez, bon, les représentations ont changé. Bon, alors les représentations ont changé parce que la structure même, si vous voulez, également du recrutement patronal a changé. Bon, je crois qu'il y a un certain nombre de choses. Outre, vous avez parlé de la financiarisation. Bon, je crois qu'il faudrait parler également, donc, du point de vue sociologique, d'une part, de la professionnalisation du métier de patron. C'est-à-dire que c'est un métier qui ne s'apprend pas, même si à l'heure actuelle, bon, HEC a monté des écoles d'entrepreneuriat, toutes les grandes écoles, etc., etc. Bon, HEC a complètement changé justement son programme pour une partie de ses étudiants qui auparavant, quand ils sortaient de l'HEC dans les années 90, n'a pas du tout envie de... Bon, il y a donc une professionnalisation. Et puis également, il y a une scolarisation. Hein, c'est ce qu'on oublie fréquemment, que lorsqu'on regarde la catégorie donc PCS2 de l'INSEE, c'est une catégorie bizarre par rapport aux autres. C'est-à-dire que on ne sait pas très très bien où la situer également dans l'échelle sociale, parce que vous avez en quelque sorte une espèce de catégorie extrêmement, extrêmement étirée du point de vue du patrimoine, du point de vue également donc des revenus. Vous avez des petits patrons qui gagnent à peine le SMIC, et puis vous avez également du point de vue des niveaux de diplôme, ne pas oublier juste un chiffre, hein, 25% donc des chefs d'entreprise actuels, je parle de l'ensemble des chefs d'entreprise, donc ont bac plus 2 contre 35% des Français. Mais, bien entendu, 80% donc des chefs d'entreprise de plus de 500 salariés ont bac plus 2.
Une diversité au sein du patronat qu'on va continuer à explorer dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Maybe these luxuries can
Vous écoutez How to be a Millionaire d'ABC sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Michel Auferlet et Valérie Boussard sont toujours avec nous pour parler des métamorphoses de la figure du capitaliste.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que les campagnes coûtent cher avant la Troisième République. Des campagnes courtes, c'est d'un territoire restreint, c'est une notabilité qui se présente ou qui soutient, c'est le plus fréquent, un personnage. Et donc, il suffit de le faire savoir par affiche et dans le journal local. Et donc, il faut contrôler le journal local pour peser. Il faut, le patronat aussi a le moyen que lorsqu'il s'agit de grandes entreprises d'influencer le vote de ses propres employés. Donc la question se pose à mon sens à l'extrême fin du 19e et au début du 20e où là la publicité électorale, politique prend de l'envergure, où la nécessité de se faire connaître davantage aboutit en effet à des dépenses que les candidats ne peuvent pas toujours assumer. Et là arrivent les caisses noires, les chèques ou le liquide et l'ensemble des circuits pas toujours évident par lesquels cet argent transite vers les bons candidats.
Voilà l'historien Denis Voronoff, invité par Jean-Noël Jeannonet sur France Culture. C'était le 20 mai 2000, ce qui nous amène à la question des liens entre les chefs d'entreprise et la classe politique. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Michel Auferlet, qu'est-ce qu'on peut dire de ces liens au 19e siècle, avant 1870?
Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est justement l'objet du livre que je suis en train de terminer. Bon, enfin, à tous les cas, je peux revenir rapidement, si vous voulez, sur les formes d'intervention, donc des chefs d'entreprise en politique au sens restreint du terme, puisque vous posez la question justement donc de la politique entre guillemets partisane politicienne, par quoi on peut éventuellement réfléchir. Alors, le problème avant 70, si vous voulez, se pose d'une manière assez simple, puisque jusqu'en 1848, vous avez donc un suffrage qui est censitaire. En 1848, vous avez donc un suffrage universel masculin, dans lequel vous avez un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont se représenter. Donc on a un peu la situation dont parle Voronoff, là, avec malgré tout, donc là aussi, pourrait-on dire, ce qu'on appelle des élections arrosées, des élections dans lesquelles vous avez donc un certain nombre donc d'agapes qui sont offertes aux électeurs de manière à réactiver, pourrait-on dire, le lien affectif qui peut exister entre le patron et le candidat. Bon.
Des formes assez classiques de clientélisme.
Voilà, c'est ce qu'on peut appeler très rapidement clientélisme, avec notamment aussi le fait que le Second Empire, il ne faut pas l'oublier, c'est un régime donc autoritaire, dictatorial, dans lequel vous avez donc une surreprésentation des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise n'ont jamais été autant en politique que sous le Second Empire. Schneid, dont on parlait tout à l'heure, a été vice-président donc, de l'Assemblée nationale, du corps législatif à la fin de la Troisième République. Alors le problème se pose un peu différemment, si vous voulez, donc après la guerre de 70. Avec, pour aller très vite, si vous voulez, donc si on compare à la situation actuelle, vous avez quasiment plus de grands patrons en politique à l'heure actuelle en France. C'est pour ça, c'est l'une des grosses différences avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., etc.
Si on regarde les statistiques, on a l'impression que c'est autour de 10% pendant la Troisième République.
C'est pas l'une des professions, si vous voulez, les plus fortes du point de vue du vivier. Donc, mais malgré tout, vous avez un certain nombre de gens. Donc, je pense à Schneider. Bon, il y a toute une le baron Rey. Bon, également les deux Vindel, etc. Il y a toute une série de les légendes du textile, généralement des gens qui sont implantés dans un territoire particulier. Bon, à l'heure actuelle, quel grand patron justement existe encore en politique?
À l'heure actuelle,
essentiellement Dassault.
Est-ce que ce sont des grands patrons ou est-ce que ce sont des chefs d'entreprise de taille inférieure à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, il y a actuellement une quarantaine de chefs d'entreprise sur 577 députés. Alors, quelle tendance on peut réussir à dessiner?
Alors, justement, de ce point de vue-là, il y a eu donc une transformation donc entre la Chambre donc de 2012, voire les chambres de 2007, etc., etc., et celle de 2017. C'est l'entrée en force donc des gens du privé. Bon, chef d'entreprise, mais généralement chef de petites entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneur le plus important, si vous voulez, dans la chambre actuelle, c'est le numéro 2, le numéro 3 de Bouygues Télécom, si vous voulez. Bon. Et puis, bien entendu, il y a Dassault. qui il y a eu le père, il y a eu le fils, il y a le petit-fils, si vous voulez, qui tiennent en quelque sorte donc à être toujours à l'Assemblée nationale. C'est quasiment le seul chef de grande entreprise, si vous voulez, qui soit. Donc c'est la grosse différence. C'est quelque chose qui s'atténue progressivement. D'une part parce que d'une certaine manière, il y a une défiance par rapport justement au chef d'entreprise en politique. Et puis d'autre part également parce que un certain nombre de gens pensent qu'ils ont d'une certaine manière mieux à faire en quelque sorte pour faire y compris de la politique que de se taper des campagnes électorales.
Et que le métier de chef d'entreprise serait un travail à part entière, voilà. Comme on commençait à le dire tout à l'heure, Valérie Boussard. Et alors peut-être que ces liens entre chef d'entreprise et dirigeant politique dépendent aussi du type de patron dont on parle. Alors on l'a dit, patron de petite entreprise, patron de plus grande entreprise, mais aussi peut-être patron d'entreprise privée ou patron d'entreprise publique, selon la distinction qui est établie par Bourdieu et que je vous laisserai peut-être nous rappeler, Valérie Boussard.
Je voudrais revenir sur cette. Ce dont on parle là, c'est de la politique politicienne, comme l'a dit Michel Offerlé. Donc, cette intervention dans la vie politique en tant qu'élu. Il y a une autre façon d'intervenir dans la vie politique, c'est pas en étant élu, mais en ayant une action. Une action politique ou plutôt une influence sur les éléments de la vie politique. Alors, ça peut se faire aujourd'hui de différentes façons. Et le monde économique a des possibilités d'intervenir dans la vie politique, dans la vie publique, à travers des rôles d'influence dans un certain nombre d'agences étatiques. Alors, où ce ne sont plus du coup des patrons publics au sens de grands fonctionnaires d'État. Comme pouvait le dire Pierre Bourdieu, mais des représentations, c'est-à-dire au sens où ils vont siéger dans des commissions, ils vont siéger dans des collèges, je pense par exemple à l'Autorité des marchés financiers, l'Agence des normes comptables, enfin d'agences qui sont plus des agences, enfin qui sont des agences publiques, mais dans lesquelles vous avez à la fois des salariés privés et en même temps des commissions qui vont faire appel à des représentants du monde économique. Donc c'est une façon de participer à la fabrication de la réglementation ou à la fabrication de la législation.
Voilà. Ce que vous nous dites, Valérie Boussard, c'est que cette influence ou ce lobbying a pris de nouvelles formes au fur et à mesure aussi du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire, Michel Offerlé, qu'elles ont pris une importance plus forte, en particulier avec le rôle croissant joué par l'État dans l'économie, particulièrement à partir de la Première Guerre mondiale?
Alors, il y a eu effectivement, si vous voulez, donc surtout après 1945, une position quand même donc assez forte donc des chefs d'entreprise. D'une part parce que les chefs d'entreprise, pourrait-on dire, intéressent directement un gouvernement. C'est-à-dire que les entreprises produisent de la richesse, et la richesse produit des taxes, et les taxes produisent des impôts, et donc là aussi, donc il y a un intérêt direct.
Et l'emploi.
Donc il y a un intérêt direct. Bon, alors ça a été poussé un peu plus loin parce que vous avez donc cet État, disons, le français qui a été considéré comme un État mixte, etc., etc., donc entre 45 et les années 80, il y a une place effectivement pour les chefs d'entreprise, de deux manières, notamment dans les commissions du plan où ils investissent justement une partie de leur expertise, de leur savoir-faire, etc., et de leur influence. Et puis en deuxième lieu, il y a aussi donc ce que Bourdieu effectivement a appelé les patrons d'État, à savoir donc des individus qui sont formés dans les grandes écoles étatiques. Bon, et dans les grands corps, bon, alors c'est essentiellement, ça va être l'ENA, ça va être qui débouche sur l'inspection des finances, ça va être également les grands corps, le corps des ponts, le corps des mines, ça va être Polytechnique. Et ces individus qui vont d'une part passer par des cabinets ministériels, donc être en lien avec le pouvoir politique en train de se faire, et puis ensuite qui vont prendre la tête d'entreprises d'abord publiques et ensuite d'entreprises privées au moment des privatisations. Donc, est-ce qu'on peut parler encore de patron d'État alors que d'une part, l'État n'a plus du tout la même surface qu'elle l'avait auparavant, que l'ENA de 2017 ou 2019 n'est plus l'ENA justement des années 1980, on n'enseigne pas la même de la même manière, et également parce que justement donc vous avez une montée également parallèle de gens qui viennent des écoles de commerce, qui viennent d'HEC, et on voit apparaître effectivement donc des gens qui sont ENA, mais avec au départ, au lieu d'avoir fait Sciences Po Paris ou d'avoir fait éventuellement une licence de ceci ou une licence de cela, on fait HEC ou l'ESSEC.
Pour vous aussi, Valérie Boussard, il n'y a plus vraiment de patron d'État, et peut-être que cette transformation est apparue avec le tournant libéral de la fin des années 70 et les privatisations dont parlait Michel Auferlé.
Oui, à partir du moment où il y a moins d'entreprises publiques à diriger, il y a effectivement moins de ces patrons d'État qui ont ces parcours au début de hauts fonctionnaires et puis qui ensuite vont pantoufler à des postes de direction d'entreprise. Et c'est vrai que le diplôme de l'ENA, comme vient de le rappeler Michel Auferlé, a été très largement remplacé hein, dans les parcours à la fois de ces patrons d'État hein, qui sont aujourd'hui moins nombreux, et de tous les patrons qui ne sont pas des patrons d'État qui ont des diplômes aujourd'hui qui sont plus les diplômes des grandes écoles de commerce, donc HEC, des grandes écoles d'ingénieurs et aussi surtout des MBA américains avec parfois un cumul de tous ces diplômes.
Et alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on accède à un poste de dirigeant, justement, Valérie Boussard, comment le conseil d'administration vous choisit comme dirigeant?
Alors, comment il vous choisit? Je dirais qu'il vous coopte. En particulier si vous êtes un homme. Alors, il faut rappeler que jusqu'à récemment, hein, les conseils d'administration ou les comités exécutifs des grandes entreprises étaient essentiellement masculins.
Et ça, donc, ça a commencé à bouger?
Alors, essentiellement à partir de la loi Copé-Zimmermann, donc en 2011, qui a exigé au 1er janvier 2017 pour les plus grandes entreprises de passer, enfin imposer des quotas de femmes, mais aussi d'hommes, c'est-à-dire 40% d'un sexe minimum dans les conseils d'administration. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que la structure va évoluer. Je pourrais vous redonner des chiffres.
Mais c'est important cette question effectivement de la féminisation des dirigeants d'entreprise. On a à toutes les échelles, c'est-à-dire d'une façon générale, aujourd'hui on assiste à une féminisation de l'entrepreneuriat au sens large, Valérie Boussard.
Alors, oui, on assiste
féminisation à une féminisation peut-être très lente.
Oui, on assiste à une féminisation, mais si on regarde dans le détail, c'est une féminisation qui est extrêmement différenciée. Pour le dire très rapidement, plus la taille de l'entreprise augmente, plus la féminisation de ses instances dirigeantes diminue. Voilà. Donc, par exemple, on a 40% des auto-entrepreneurs qui sont des femmes. Vous voyez, auto-entrepreneur, toute petite entreprise. Si on passe au niveau de la SARL, on a 25% des gérants de SARL qui sont des femmes.
Sachant que le statut d'auto-entrepreneur correspond souvent à une précarisation.
Oui, et en plus, c'est une précarisation. Effectivement. Et donc, moins on est précaire, plus la taille de l'entreprise augmente, moins on va trouver de femmes. Si on passe aux dirigeants des salariés des sociétés hors SARL, on arrive à 17% seulement de femmes.
Ce qu'on voit, c'est que cette féminisation, Michel Auferlé, elle est de pair aussi avec une certaine précarisation de l'entrepreneuriat, avec la création de ce statut d'auto-entrepreneur.
Alors, le terme d'auto-entrepreneur n'existe plus maintenant, et c'est un problème d'ailleurs pour les sociologues, parce que on ne sait pas à l'heure actuelle combien il y a d'entreprises en France. Hein, c'est-à-dire que, en quelque sorte, on a enrôlé les auto-entrepreneurs dans l'idée que tous les Français voudraient créer leur entreprise et que la France maintenant est désormais, si vous voulez, enfin libérée de sa préférence pour le salariat et préférence pour le fonctionnariat.
Discours très volontariste. Oui, discours très volontariste. Par le gouvernement.
Alors, ce qui est vrai, c'est que on n'a jamais autant créé d'entreprises en France que dans les dernières décennies. Hein. On est passé de 200 000 créations à plus de 300 000 donc en une vingtaine d'années. Mais lorsqu'on agrège, si vous voulez, les auto-entrepreneurs dont à peu près la moitié ne font aucun chiffre d'affaires, et les autres, c'est des tout petits chiffres d'affaires, on arrive effectivement à 4 millions d'entreprises en France. Bon. Mais il n'y a pas 4 millions, si vous voulez, donc d'entrepreneurs en France. Donc,
et sur ces 4 millions, je crois qu'il y a seulement 2000 start-up innovantes, véritablement innovantes. Donc on voit que c'est une petite, toute petite partie, Michel Leferlet, de l'ensemble.
Oui, c'est-à-dire que vous avez là aussi, donc dans toute une série de journaux, il y a une page start-up dans le Figaro, Challenge, c'est en quelque sorte une espèce de vitrine ouverte sur les start-up. Alors je nie pas qu'il est en train de se passer quelque chose à l'heure actuelle, hein, que effectivement toute une série d'effets, toute une de la numérisation, toute une série d'effets également de la déstructuration des anciens collectifs, etc. etc. On a une nouvelle forme d'entreprise qui est en train de se mettre sur pied, mais la chose n'est pas faite. La chose n'est pas faite. Et la mode des start-up, hein, c'est il y a un article sur le web qui dit si à 40 ans t'as pas créé ta start-up, t'es qu'un con. Enfin, c'est pour reprendre effectivement la formule de Seguin.
La montre.
Pour les montres, si vous voulez. Bon, c'est également un cimetière. C'est un cimetière avec également toute une série de contraintes. Alors, il y a effectivement quelques belles histoires qui se racontent avec donc des bouquins à la clé. Je pense effectivement de Marc Simoncini, etc., etc., qui ou évidemment le Cossus Comorizet, qui raconte leur aventure. Alors, ce n'est pas faux. C'est en quelque sorte quelque chose qui ressemble un peu à des aventures états-uniennes, mais c'est une toute petite minorité de la création d'entreprise.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication qui est faite autour de ces créations d'entreprises. Valérie Boussard est peut-être en décalage avec la réalité des aventures qui finissent bien, si je puis dire.
Oh oui, ça c'est sûr. De toute façon, le principe même de la start-up, c'est qu'elle démarre. Donc on nous parle du moment où elle démarre et on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Et les chiffres sont assez assez effarants, hein, sur le peu de succès de la majorité de ces startups. Je voulais revenir sur la féminisation à propos des startups, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que 5% des capitaux levés pour la création d'entreprises, et donc et en particulier pour la création des entreprises innovantes comme les startups, 5% des capitaux levés bénéficient aux femmes. Donc ça vous donne aussi une idée de la position des femmes dans le milieu de la création d'entreprises innovantes, enfin du numérique, dont on nous dit que c'est
l'avenir
de l'économie.
Sur cette question de la féminisation des chefs d'entreprise, Michel Leferlet, c'est aussi un sujet sur lequel vous avez l'intention de continuer à travailler.
C'est surtout plutôt, on va peut-être travailler ensemble justement là-dessus avec Valérie. Moi, j'avais regardé justement quelque chose là aussi pour sociologiser un peu le métier de chef d'entreprise, c'est de réfléchir sur la femme du patron. C'est-à-dire que bon, les femmes, il y a relativement peu de femmes patronnes. Enfin, il y en a quand même malgré tout. Mais c'est plutôt le commerce, c'est plutôt les petites entreprises. Au niveau du CAC 40 à l'heure actuelle, il y a une dirigeante sur 40, si vous voulez. Bon, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est justement la question comme en politique. Hein, il y a une thèse qui a été soutenue sur la maisonnée politique. De quelle manière, les hommes politiques ont besoin d'un conjoint pour effectuer leur carrière. Les patrons ont besoin également d'une conjointe. Généralement, c'est une conjointe qui assure toute une série de choses, qui assure d'une part parfois le ménage, hein, non déclaré, parfois la comptabilité, parfois éventuellement le personnel, et puis en tous les cas la charge mentale en règle générale de l'univers domestique. Et donc je pense que il y a effectivement des femmes patrons, et puis il y a des femmes des patrons, sur lesquelles je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses encore à trouver, parce qu'en fait nous savons pas mal de choses maintenant sur les patrons, mais je crois que c'est effectivement un terrain en
de recherche qui s'ouvre, Valérie Boussard, sur cette question de la féminisation et en même temps des femmes de patrons, comme dit Michel Leferlet.
Oui, parce que vous me posiez la question tout à l'heure, comment devient-on patron aujourd'hui ? C'est-à-dire comment est-on nommé, soit dans un conseil d'administration, soit dans un comité exécutif d'une grande entreprise ? Je vous le disais, pour les conseils d'administration, c'est de la cooptation quand on est un homme. Pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a vu avec les chiffres. Donc, on comprend bien que les parcours sont semés d'obstacles. Les cooptations sont pas aussi faciles. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est quand même très intéressant, c'est que ces femmes qui sont dont on favorise l'entrée dans les conseils d'administration, vont être beaucoup recrutées par des cabinets de chasse de tête spécialisés dans la recherche d'administrateurs et qui vont bien souvent exiger que ces femmes aient fait un parcours, une formation à la pratique de la position d'administrateur.
Donc c'est un cercle vicieux.
Voilà, donc c'est-à-dire on leur demande ce qui n'avait jamais été demandé aux hommes qui se cooptaient les uns les autres.
Michel Auferlet.
Il y a aussi une mobilisation des femmes là-dessus aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des femmes cadres supérieurs ou chefs d'entreprise qui sont organisées dans des... On n'a pas eu le temps de voir toutes les formes d'organisation patronale, mais il y a véritablement depuis maintenant une vingtaine d'années, donc la thèse de Marion Rabier montre bien, une mobilisation justement des femmes chefs d'entreprise qui ne sont pas des féministes, non, mais qui en quelque sorte veulent en quelque là aussi donc faire reconnaître le fait féminin dans l'entreprise, bon, sur l'égalité donc des chances et puis également le droit égal en quelque sorte à diriger l'entreprise.
Ce qui pourrait contribuer à faire avancer les choses. Alors on arrive presque au terme de l'émission. Un dernier mot peut-être sur les transformations de cette figure du capitaliste qui est le patron ou le chef d'entreprise, Michel Auferlet.
Alors cette transformation, c'est à la fois sa position centrale et puis sa fragilité aussi, puisque désormais, l'un des problèmes qui se pose, c'est ce qu'un certain nombre d'études ont bien montré, en tous les cas pour les États-Unis, c'est peut-être un petit peu moins vrai en France, mais la durée de vie d'un patron donc non patrimonial, parce qu'on a essentiellement parlé des patrons non patrimoniaux, des managers, bon, mais il y a encore des grands patrons patrimoniaux, il y a Lagardère, il y a Arnault, il y a Dassault, il y a Bolloré, etc. etc. Bon, en tous les cas, la durée de vie donc d'un patron donc à la tête de son entreprise bon est lié aussi bon aux décisions des actionnaires. Il y a dans l'ouvrage il y a une très belle description justement donc d'un grand patron français qui me dit bon je suis allé à Philadelphie avec mes actionnaires, on a été reçu comme à la Sécu en France pour un salarié quoi. Bon, et donc en quelque sorte bon il y a un certain nombre d'objectifs qui sont désormais à atteindre et même s'il y a une espèce de rébellion à l'heure actuelle donc des chefs d'entreprise contre cette vision à court terme de entreprise, bon, notamment tous les débats sur la loi Pacte l'ont bien montré, il n'en reste au moins qu'il y a une forme de fragilité aussi du manager par rapport à ses actionnaires, puisque c'est le shareholder qui est beaucoup plus important que le stakeholder.
Fragilité du manager, vous dites, et en même temps des tendances à vouloir introduire davantage de démocratie, Valérie Boussard, au sein de l'entreprise, avec cette idée qu'il faut une meilleure représentativité des salariés face au patron, justement. Dans les conseils d'administration. Il y a aussi cette question de la répartition du pouvoir.
Oui, mais effectivement, je pense la grande question que posent les évolutions du capitalisme d'aujourd'hui, il me semble, c'est finalement qui dirige. Et donc, je crois qu'on a tourné autour de cette question là dans l'émission, à travers ces différentes figures de patrons, propriétaires, non propriétaires, en situation de diriger parce qu'ils sont à la tête de l'entreprise ou de diriger parce qu'ils sont du côté du conseil d'administration, tout en étant patron. Dans les conseils d'administration, siègent des patrons d'une autre entreprise. Vous voyez, en fait, je crois que ce qu'on voit, c'est un brouillage des frontières. Et donc, c'est assez intéressant, en tant que sociologue, d'aller essayer de comprendre, finalement, qui dirige et comment se passe aujourd'hui cette possibilité de prendre des décisions et d'agir sur l'entreprise ou sur le capital.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Manifestation d'agriculteurs hier dans toute la France pour prendre à partie le président Macron, mais aussi l'Union européenne en pleine négociation sur la future PAC.
Oui, la politique agricole commune, les députés européens en tout cas, ce sont bien eux que vise le millier de manifestants de cette agro-parade hier à Strasbourg. Environ 80 associations françaises et allemandes, notamment de cette plateforme qui se dit pour une autre PAC, c'est-à-dire tournée contre l'agro-business et qui demande une réallocation des subventions, je cite, de la productivité vers une agriculture, je cite encore, biologique. Cette manifestation, en tout cas, intervient alors qu'effectivement, la future PAC 2021-2027 est en pleine renégociation sur fond d'inquiétude, puisqu'avec le départ du Royaume-Uni, le budget prévu par l'ancienne commission était en baisse de 5% à 365 milliards d'euros et les agriculteurs craignaient aussi une baisse de leurs revenus. Quant à la répartition, eh bien, l'ancienne commission avait prévu prévu un budget assez vert, disons, avec 40% des fonds tournés vers l'environnement. Mais pour concilier les objectifs de soutien à l'emploi et le verdissement, l'équation sera difficile, explique Hervé Guillaumard. Il est économiste et directeur de recherche à l'INRA.
En fait, beaucoup du soutien, enfin une large part du soutien de la PAC passe par des aides assises soit sur les hectares, donc sur les surfaces cultivées, soit sur le nombre d'animaux, et plus d'ailleurs sur les surfaces. Donc c'est ce qu'on appelle les aides directes dites découplées du premier pilier, qui représentent 80% à peu près du soutien, quoi. Donc les différentes réformes antérieures ont cherché en fait à empêcher qu'il y ait le lien direct entre plus vous avez de surface, plus vous touchez. Donc en mettant des systèmes de dégressivité ou de plafond qui sont quand même restés très timides. Les propositions qui avaient été faites par l'ancienne commission remettaient sur la table cette question en fait de dégressivité ou de plafonnement, mais selon en tout cas par exemple la Confédération paysanne, de façon trop faible encore, et donc ne liait pas assez à l'emploi qui est utilisé dans les exploitations agricoles. Donc il est possible effectivement de remodifier en fait ces aides pour mieux les asseoir à des conditions d'emploi. Mais c'est pas sûr non plus qu'il y ait consensus de l'ensemble des États membres pour cette modification. Et c'est ça, du coup, un des objets de la négociation en cours. Par exemple, les exploitations qui sont grandes dans certains pays en nombre d'hectares, ils voient pas ça forcément d'un bon œil parce que ça veut dire, du coup, une répartition un peu différente du budget à l'intérieur du pays ou entre pays. D'où la grande difficulté.
9 objectifs économiques, environnementaux et sociaux avaient été fixés par l'ancienne commission. Xavier, en tout cas, il y a un peu plus de temps pour négocier puisque la nouvelle PAC est prévue pour 2022 seulement.
C'est ça, avec un an de retard sur le calendrier normal. Entre-temps, on ne sait pas si le Royaume-Uni sera encore dans l'Europe. Et la Croatie, elle, qui ne touche pour l'instant qu'une partie des aides, y aura pleinement accès. Ces considérations pèseront donc dans le montant du futur budget. Jusqu'ici, 17 pays, dont la France, avaient demandé à ce que la baisse ne dépasse pas la proportion du budget affecté par le Brexit. On en saura plus après la prise de fonction de la nouvelle commission le 1er décembre.
On passe au bref. France toujours, presque un an après le mouvement des Gilets jaunes sur l'île. Emmanuel Macron est accueilli à la Réunion par une grève générale.
Oui, pour alerter sur la situation sociale, dit la CGT, une des organisatrices. Situation déjà préoccupante l'année dernière et qui se dégrade aujourd'hui. 42% des réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, 24% sont au chômage. Les habitants de l'île sont pris en étau entre un coût de la vie plus élevé qu'en métropole et un salaire médian de 30% inférieur. Et ils s'appauvrissent. Le président du Secours catholique sur l'île avertit que les actifs aussi sont touchés par la pauvreté. Le gouvernement, lui, avait déjà pris quelques mesures, il faut bien dire minimales, concernant les produits de base l'année dernière. Également 1000 contrats aidés supplémentaires en septembre. Mais cette fois, Emmanuel Macron, qui doit être arrivé il y a quelques minutes, a promis, je cite, des messages très forts sur l'agriculture et l'emploi.
Et enfin, des turbulences au sommet chez Boeing. La suite des déboires du 737 MAX avec un premier départ à la direction.
Oui, là, c'est le directeur de la division aviation commerciale à Seattle, Kevin McAllister, qui vient d'être limogé, même si la direction de Boeing à Chicago ne commente pas, les spécialistes indiquent qu'elle lui reprochait de n'avoir pas assez, voire du tout défendu le 737 MAX, dont deux exemplaires, vous vous rappelez, se sont écrasés en tuant tous leurs occupants, mais aussi reproche et surtout de n'avoir pas transmis toutes les informations au siège dans les délais, au moment où la pression des autorités aériennes s'était accrue après le deuxième crash de mars. Alors le constructeur qui avait d'abord accusé les pilotes avant d'être lui-même accusé de tromperie se défausse-t-il encore ou y a a-t-il une reprise en main de la machine? En tout cas, le PDG, Dennis Muilenburg, avait lui-même été déchu de la présidence du conseil d'administration et la pression donc s'accroît sur Boeing.
On se quitte avec Heavenly du dernier album de Cigarette After Sex. dernier album intitulé Cry et qui sort après-demain. Merci beaucoup Michel Auferlé et Valérie Boussard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous avez coordonné, Michel Auferlé, Patron en France, paru en 2017 à La Découverte. Demain, la sortie du capitalisme est-elle le seul moyen d'éviter l'effondrement? On en parle en compagnie de Jean-Marie Haribet et d'Hélène Olivier. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast.